C'est l'heure du journal. Aurélie Kiefer. Bonsoir Aurélie.
Bonsoir Hervé, bonsoir à tous. Nouveau gouvernement en Espagne, le socialiste Pedro Sanchez présente à l'instant la liste de ses ministres au roi. Dans une lettre commune, Paris, Berlin et Londres demandent aux États-Unis de ne pas sanctionner leurs entreprises présentes en Iran. Les trois pays défendent une nouvelle fois l'accord sur le nucléaire iranien. Mailler le territoire avec des hôpitaux communautaires et décloisonner les soins de ville et les soins hospitaliers, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie propose de changer de logique pour désengorger les services d'urgence. Comment protéger et partager le foncier agricole, sujet abordé aujourd'hui à l'Assemblée. Il s'agit d'éviter l'accaparement des terres agricoles et l'artificialisation des sols. C'est le dossier de ce journal. Mariano Rajoy annonçait hier son retrait de la vie politique espagnole. Ce soir, le nouveau Premier ministre, le socialiste Pedro Sanchez, présente la composition de son gouvernement. Il présente en ce moment même sa liste au roi. Elle n'est donc pas encore officielle. Mais la presse espagnole a déjà confirmé quelques noms. Et c'est un gouvernement féministe et expérimenté qui se profile, Mathieu de Taillac.
Oui, c'est en tout cas ce qu'on peut dire des noms que la presse a pu confirmer. La liste est presque complète. On a les noms de 10 femmes ministres contre 5 hommes seulement, et cette hyper ou cette supra-parité, elle commence dès le numéro 2 du gouvernement, puisque la vice-présidence du gouvernement échoit à Carmen Calvo, qui sera également ministre de l'égalité homme-femme, ce ministère qui n'existait pas dans le gouvernement Rajoy, et donc qui s'est au premier rang protocolaire au Conseil des ministres, juste après le chef du gouvernement, Pedro Sanchez. Cela permettra de faire des politiques féministes un élément transversal, d'introduire des mesures pour l'égalité dans les différents ministères. Et puis, parmi les autres femmes puissantes de ce gouvernement, il faut citer au moins la ministre de l'économie, Nadia Calviño, a été jusqu'alors directrice générale du budget à la Commission européenne. C'est probablement un signe envoyé aux partenaires européens et au marché. L'Espagne tiendra ses engagements européens et ses objectifs de déficit. Autre signe de son engagement européiste, la nomination aux affaires étrangères de Josep Borrell. Il avait été président du Parlement européen. C'est un Catalan qui s'est beaucoup engagé contre le processus indépendantiste. Vous savez que c'est là l'un des défis dont hérite le gouvernement Sanchez. C'est encore une femme qui sera la première à y faire face, Meritxell Batet. Elle est nommée aux collectivités territoriales. C'est une autre Catalane qui incarne l'option fédéraliste, une sorte de troisième voie entre le statu quo et l'indépendance. Et puis on va citer un dernier nom, celui de Pedro Duque. Ce n'est pas un politique, c'est un astronaute. Quoi de mieux pour faire décoller la science, la recherche et les universités, le ministère dont il devrait hériter.
Mathieu de Taillac en direct de Madrid. La France, l'Allemagne et le Royaume-Uni adressent une lettre aux États-Unis pour demander des exemptions de sanctions pour leurs sociétés présentes en Iran. Nous sommes toujours convaincus que l'accord de 2015 sur le nucléaire iranien est le meilleur moyen pour parvenir à empêcher que Téhéran se dote de l'arme nucléaire, écrivent les ministres des Finances et des Affaires étrangères des trois pays, qui demandent aux États-Unis de s'abstenir de prendre des mesures qui feraient du tort aux intérêts de défense européens. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, défend lui la position inverse. Après Berlin et Paris, il se trouve aujourd'hui à Londres pour dire à Theresa May tout le mal qu'il pense de l'Iran. Nadim Epstein a rencontré David Harari, président du Haut Conseil franco-israélien de la science et de la technologie. C'est également le père des drones israéliens. Il rappelle qu'Israël devait déjà se protéger de Téhéran et développer une défense anti-aérienne dans les années 80.
Nous avions déjà comme souci les missiles balistiques iraniens. Donc nous avons développé un système, le Arrow, la flèche, qui peut arrêter des missiles balistiques qui sont dirigés vers Israël. Par le principe que nous avons développé sur le système Arrow, a découlé justement le dôme de fer. La défense, c'est sur des missiles de plus petite portée. Aujourd'hui, nous avons 4 niveaux de défense. Les missiles balistiques qui vont depuis 4000 km jusqu'à à peu près 1000 km. Après, nous avons un autre système qui vient d'être terminé, la baguette magique, qui est justement entre 1000 km et 300 km. Le dôme de fer qui va à peu près de 250 km jusqu'à 5-6 km. Et puis, il y a un autre système qui est en train de se développer, basé sur plusieurs technologies, dont un rayon laser, pour des petites roquettes, des petits mortiers de 3 km de portée.
Donc ce que vous décrivez, Israël fort, bien équipé, une puissance militaire. Dès lors, Israël aujourd'hui a les moyens de se défendre.
Je pense, je suis certain, mais je suis convaincu que nous avons tous les moyens. J'espère qu'on n'aura pas besoin de les utiliser. Je ne crois pas que le Premier ministre israélien ait demandé à la France ou à l'Allemagne ou aujourd'hui à l'Angleterre, puisqu'ils se trouvent là-bas, de quitter l'accord. Et je pense qu'il est venu montrer les lacunes. Il ne faut pas oublier que ce conflit aussi, c'est un conflit religieux chiite sunnite. parce qu'il est accepté dans le monde qu'on puisse dire on veut détruire Israël. Il ne serait pas accepté par le monde que l'Iran dise je vais détruire l'Arabie Saoudite ou je vais détruire un autre pays. Mais détruire Israël, on l'accepte, donc c'est bien, mais vous savez, les missiles que les Iraniens sont en train de développer sont au-delà de la trajectoire d'Israël. Les missiles que les Iraniens sont en train de développer peuvent atteindre l'Italie.
David Harari au micro de Nadine Epstein. Facebook se retrouve une nouvelle fois sur la sellette. La société américaine reconnaît que des groupes télécoms chinois ont eu accès à des données privées d'utilisateurs. Et parmi ces groupes, il y a Huawei, accusé par les Américains d'être un bras armé technologique de Pékin. Bref, tout ça est encore très embarrassant pour Mark Zuckerberg, Grégory Phillips.
Oui, on a vu le fondateur de Facebook témoigner ici aux États-Unis devant le Congrès américain début avril après le scandale Cambridge Analytica et le vol des données personnelles de 87 millions d'utilisateurs. Et donc cette fois, même si cette affaire n'est peut-être pas de la même ampleur, Mark Zuckerberg devra peut-être donner des explications sur ses accords passés avec des fabricants chinois de téléphones portables. Au moins quatre compagnies qui, en 2010, ont obtenu de Facebook un accès à ses interfaces et donc potentiellement aux données personnelles de ses utilisateurs. Pourquoi Facebook avait à l'époque accepté d'ouvrir comme ça ses portes, pour que ces fabricants de téléphones puissent rendre leurs appareils compatibles avec le réseau social. Facebook assure aujourd'hui que les informations fournies étaient stockées dans les appareils. C'est une des défenses présentées par la compagnie, mais pas dans les serveurs informatiques des compagnies chinoises.
Et parmi ces fabricants, il y a donc Huawei, le troisième fabricant de téléphones portables dans le monde, que les Américains soupçonnent d'être très proche du pouvoir chinois.
Oui, car depuis 2012, les services de renseignement américains mettent en garde contre Huawei, qui a des liens très forts avec le parti communiste chinois et donc le pouvoir de Pékin, avec des risques d'espionnage industriel et ou politique. Par exemple, il y a quelques jours, le Pentagone a interdit à ses employés d'acheter des smartphones de cette marque pour des raisons de sécurité. Alors Facebook a commencé à se défendre, dit qu'à sa connaissance, il n'y a pas eu d'usage frauduleux des informations fournies à ses différents partenaires chinois. Néanmoins, Facebook annonce que le contrat avec Huawei sera résilié avant la fin de cette semaine.
Grégory Phillips en direct de Washington. Des pistes inattendues pour imaginer l'hôpital de demain. Dans son rapport remis au Premier ministre, le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie propose non pas des fermetures d'établissements, mais quelques 600 hôpitaux supplémentaires. Et il défend la fin du cloisonnement entre soins urbains et hôpitaux. Des mesures en rupture avec la politique menée ces dernières années, Hugo Kaczynski.
Désengorger les urgences et proposer un service hospitalier construit autour du patient, voilà les deux grands thèmes de ce rapport du Haut Conseil de l'assurance maladie. Premier concerné, les femmes enceintes, les personnes âgées ou les personnes souffrant d'une maladie chronique. Ces hôpitaux ont pour objectif de proposer des soins polyvalents tout en restant à proximité de ces patients vulnérables. Claude Lescher, médecin généraliste, fait partie du Haut Conseil de l'assurance maladie à l'origine de ce rapport. Il présente deux enjeux majeurs de ces hôpitaux dits communautaires.
Une bonne cogestion entre la ville et l'hôpital et un retour à domicile aussi rapide et précoce que possible. Il ne faut quand même pas oublier que cette proposition n'est cohérente que si on lit le reste du rapport qui est centré sur il faut renforcer la proximité, il faut renforcer l'articulation des soins qu'on appelle dits de ville, c'est-à-dire les soins qui vous permettent d'être soigné sans être hospitalisé.
Ce rapport est salué par les syndicats, mais quelques points restent quand même à éclaircir selon Jean Vigne du syndicat Sud Solidaire.
Il a réellement le mérite d'exister parce qu'il valide pas mal d'éléments que nous contestons depuis des années. Le seul phénomène inquiétant, c'est qu'il parle encore de fermeture de maternité et de chirurgie. Il y a plus du tiers des maternités qui ont fermé depuis une vingtaine d'années, avec des conséquences catastrophiques.
Car il faut dire que la situation actuelle du système de santé est jugée à bout de souffle par de nombreux professionnels du secteur. Charge maintenant au gouvernement de suivre les recommandations d'un rapport qu'il a lui-même commandé.
Merci Hugo. Kaczynski, excusez-moi. Ils sont épuisés, encore plus que moi. Face à l'enchaînement des réformes, les députés ont du mal à tenir le rythme. Rien que pour la loi Elan, étudiée actuellement, plus de 3000 amendements ont été déposés. Cette semaine, les messages de ras-le-bol sont venus de l'opposition, mais aussi de la majorité, au point que le président de l'Assemblée, François de Rugy, a admis qu'il y avait un problème, Stéphane Robert.
Oui, ça fait plusieurs semaines déjà, notamment depuis le vote de la loi Asile et Immigration au mois d'avril, que de nombreux députés se plaignent de débats qui s'éternisent, parfois jusque tard dans la nuit, de devoir être présent le week-end pour discuter certains projets de loi. Et aujourd'hui, beaucoup se disent à bout, qu'ils soient dans l'opposition ou dans la majorité, à l'image de ce député constructif, Philippe Vigier.
Quand pendant 15 jours de suite, vous siégez du lundi au dimanche, jour et nuit, Est-ce que vous croyez que vous êtes en capacité de faire du bon boulot? Certainement pas. C'est vrai pour un journaliste, c'est vrai pour un médecin, c'est vrai pour un député, on n'est pas des surhommes.
En cause, les réformes et les textes imposés par le gouvernement qui s'enchaînent à un rythme effréné. Ce qu'a reconnu ce matin le président de l'Assemblée nationale, François de Rugy. Il était chez nos confrères de France Info.
Je partage le souhait de beaucoup de députés d'avoir un ordre du jour qui soit plus raisonnable. Ce n'est pas un fonctionnement normal d'une assemblée. Moi, j'ai dit, il faut mettre de l'ordre dans l'ordre du jour.
Le gouvernement est donc prié de lever un peu le pied pour ménager les troupes à l'Assemblée, ce qui permettra par la même occasion de ménager aussi les conseillers ministériels qui, nous dit-on, sont également sous pression. Mais il n'y a pas que le gouvernement qui est responsable de cette situation. Les députés le sont également parce qu'ils multiplient les amendements tous azimuts sur les différents projets de loi. On en a compté 900. On a compté 900 amendements pour la loi Asile-Immigration, 2300 pour la loi Agriculture-Alimentation. Et là, on en est à 3000 sur la loi Logement. Et ça, évidemment, examiner des milliers d'amendements, ça prend beaucoup, beaucoup de temps. Et ça concerne les députés d'opposition qui essaient de se faire entendre et d'exister politiquement, mais aussi les députés de la majorité, car un certain nombre d'entre eux ont du mal à trouver leur place. La difficulté est que le groupe En Marche est pléthorique, 313 députés, et que tout le monde ne peut pas se saisir des thématiques les plus intéressantes et les plus gratifiantes. Résultat, ils sont plusieurs dizaines à s'interroger sur leur rôle et leur utilité.
Stéphane Robert, le foncier agricole en question aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Une proposition de loi est proposée aux députés pour tenter de lutter contre plusieurs phénomènes qui menacent les terres agricoles françaises, leur concentration, leur accaparement et l'artificialisation des sols, danger pour les cultures et les paysages. Le sujet a été abordé à plusieurs reprises dans l'hémicycle ces derniers mois, mais à chaque fois, les projets ont été retoqués, notamment par le Conseil constitutionnel. Alors cette fois, le texte présenté s'inscrit dans le cadre d'une mission parlementaire sur le sujet. Un rapport doit être remis à la rentrée avant une loi ferme et définitive début 2019. Bonsoir Anne Lorchouin.
Bonsoir Aurélie.
Ce sujet du foncier agricole n'intéresse pas que les agriculteurs. De plus en plus d'élus locaux s'en préoccupent parce que c'est un enjeu de territoire. Exemple en Normandie, vous vous êtes rendu dans le pays du Neubourg, dans l'Eure, où les terres agricoles comptent parmi les plus fertiles de France.
Oui, le Neubourg, dont l'une des caractéristiques est la culture du lin, une plante qui nécessite du soleil, beaucoup de pluie et de grandes surfaces de terres fertiles. Dans ce pays du Neubourg, qui regroupe 34 communes au centre de l'Eure. Les élus locaux ont vu le paysage changer ces dernières années. Les surfaces d'élevage ont disparu pour devenir des terres en friche où se sont installées ensuite de grandes cultures ou des centres commerciaux de périphérie. Jean-Paul Legendre, président de la communauté de communes du pays du Neubourg.
Longtemps, on a estimé que l'intérêt de l'industrialisation du commerce devait primer. Surtout que ça permettait de vendre la terre à un tarif qui était plus élevé. Et puis, ça paraissait aussi une ressource qui pouvait être sans fin. Bon. Et il a vraiment fallu une période beaucoup plus récente, notamment grâce à la prise de conscience des agriculteurs, des jeunes agriculteurs, pour comprendre qu'il s'agissait d'une vraie richesse et qu'il fallait la préserver et que s'il fallait l'utiliser, il fallait le faire avec une certaine parcimonie et en voyant si c'était vraiment nécessaire ou si d'autres solutions existaient.
La terre agricole dans cette région, mais c'est vrai partout en France, n'est pas inépuisable. Lorsqu'on construit sur ces terres, le phénomène est irréversible et il a des conséquences écologiques notamment, sans compter qu'il ne permet pas à des agriculteurs qui recherchent des terres de pouvoir s'installer.
Mais alors ces terres agricoles qu'on voudrait protéger, qui les vend ?
Eh bien le paradoxe, c'est que ce sont souvent les agriculteurs eux-mêmes, ce qui ne pose pas de problème lorsque c'est pour permettre à un jeune agriculteur de s'installer, mais souvent c'est pour gagner plus d'argent et ces terres agricoles sont vendues comme des terrains à bâtir via des modifications des plans locaux d'urbanisme, étant bien entendu qu'une terre vendue pour y construire apporte plus qu'une terre vendue pour la cultiver. Guillaume Roulet est agriculteur, il cultive le lin et la betterave sur le plateau du Neubourg.
Quand on est jeune, on veut de la terre pour s'installer. Après, quand on arrive à un âge, enfin, je veux dire, dans nos âges, on aimerait se conforter aussi dans son exploitation. Et arriver à la retraite, au bilan, on se peut dire aussi, est-ce que je vais avoir assez de retraite? Et il y en a peut-être qui vendent un peu de terrain à bâtir, ou même des partages. Hein.
Et on peut pas leur en vouloir.
Voilà, non. Je pense, aujourd'hui, c'est vrai que ce qui est difficile dans notre milieu, c'est que quand on a des enfants, pour faire une succession équitable, des fois, au lieu de voir partir ses terres, il vaut mieux soit prévoir de l'immobilier ou des terrains à bâtir pour faire des partages.
Alors, premiers acteurs sollicités lors de la vente de ces terres agricoles, les géomètres. Dominique Pfaff est expert géomètre à Rouen. Il croise souvent ces agriculteurs qui vendent leurs terres pour des raisons diverses.
C'est un mixte entre des agriculteurs qui entendent vendre un peu de terrain à bâtir pour se constituer un petit pécule, et puis des gens qui ont habité en zone rurale avec des terrains de 3 000 à 5 000 m², comme on avait autrefois assez facilement, et qui s'aperçoivent que c'est plus très facile à entretenir parce que les conditions d'élevage d'un parc de moutons, par exemple, qu'on avait beaucoup en zone rurale, on n'en voit plus. Donc les gens préfèrent morceler leur terrain, d'autant que la recherche aujourd'hui de terrain à bâtir porte sur des petites surfaces. Les gens ne recherchent plus de grandes surfaces. De ce point de vue-là, ça convient bien.
Protéger ces terres agricoles, l'idée fait consensus, Anne-Laure, mais les moyens d'y arriver divisent.
Oui, certains pensent qu'il faut sanctuariser partout les terres agricoles. Autrement dit, ne plus accepter que celles-ci perdent leur vocation originelle, la culture. Mais il sera certainement difficile de faire comprendre aux particuliers qui souhaitent s'acheter un bout de terrain pour y faire construire qu'il devra renoncer à son pavillon. Or, ce sont ces maisons individuelles qui grignotent le plus les terres agricoles, bien plus que les projets d'aéroports ou de centres commerciaux qui cristallisent les oppositions.
Anne-Laure Choin. Il y a quelques années, le niveau des concours de l'enseignement avait été relevé à Bac+5. Aujourd'hui, le ministère de l'Éducation nationale songe à recruter à partir d'un Bac+3, plus précisément à pré-recruter. L'idée fait son chemin depuis la publication d'un rapport de la Cour des comptes allant dans ce sens. Alors l'objectif affiché est de répondre à la crise du recrutement. Mais d'après Frédéric Rollet, secrétaire général du SNES, syndicat national des enseignements de second degré, le ministère cherche avant tout à faire des économies.
Ce qui est très inquiétant dans les propos de la Cour des comptes, et y compris l'intérêt que semblent y porter les ministres, c'est que ça sert surtout à faire des économies, puisqu'on ne sait pas bien ce que deviendraient les gens qui auraient passé les épreuves d'admissibilité à la fin de leur licence, quel statut ils auraient, et on risque de retrouver ce qu'on a connu sous Xavier Darcos, c'est-à-dire une année qui soit une année blanche, où les gens ne soient pas stagiaires, rien, et ne soient donc pas rémunérés. C'est tout à fait possible qu'on puisse mettre des gens qui seraient utilisés un peu comme contractuels, c'est-à-dire qu'ils pourraient faire ou des remplacements ou des choses de ce type, sans être encore véritablement donc titularisés, donc recrutés, et en disant qu'en même temps, ça fait partie de leur formation, puisque la formation serait surtout sur le terrain. En tout cas, on voit qu'on est encore une fois en train de sacrifier la formation des enseignants, qui est quand même un élément très important pour la suite, pour la formation de l'ensemble des jeunes, à des impératifs budgétaires à très court terme.
Frédéric Rollet, jointe par Hakim Kasmi. À qui appartiennent les œuvres disparues d'églises ou de châteaux pendant la Révolution française ? La question est soumise au Conseil d'État, chargé de désigner le propriétaire légitime d'une statuette médiévale de grande valeur qui ornait le tombeau de Philippe le Hardi, duc de Bourgogne. Cette statuette représentant un pleurant, un moine en pleurs, est depuis plusieurs générations dans la famille Henrotin, à Neuilly-sur-Seine. Mais l'État veut aujourd'hui la récupérer, Florence Thuram.
Oui, alors pour bien comprendre cette histoire, il faut remonter à la Révolution de 1789 qui décide la nationalisation des biens de l'Église. Certains vont se retrouver entre les mains de particuliers qui les ont achetés ou en ont hérité. C'est le cas du pleurant numéro 17, objet du litige évalué à 2 millions d'euros et considéré comme un chef-d'œuvre du Moyen-Âge. La famille Henrotin va d'ailleurs le prêter à plusieurs reprises pour des expositions en France et à l'étranger. Mais en 2014, elle décide de vendre la statuette aux enchères. Elle sollicite alors une autorisation d'exporter, refusée par le ministère de la Culture qui interdit la vente et réclame la restitution du pleurant. Attitude totalement incompréhensible pour l'avocat de la famille, Antoine Dalvolvé.
Cette situation incompréhensible l'est d'autant plus que pour des pleurants absolument identiques, l'État n'a jamais revendiqué la propriété de ces statues et au contraire, lors de la mise aux enchères de ces pleurants, a laissé la vente aux enchères se dérouler normalement et une fois le marteau tombé, a exercé son droit de préemption et a donc acheté ses pleurants au prix auquel, finalement, ils avaient été adjugés par la vente aux enchères. La situation que nous offrons aujourd'hui à l'État est une situation de rêve, puisque si on poursuit dans sa logique, on voit bien que c'est un moyen pour lui assez simple de récupérer dans son giron une statuette qui vaut plusieurs millions d'euros, sans bourse déliée.
Pour trancher, le Conseil d'État va lui aussi devoir remonter le temps et se pencher sur deux décrets de la période révolutionnaire relatifs à l'aliénation et à la prescription des biens nationaux, deux textes qui donnent lieu à une interprétation radicalement différente de la part des deux parties. Par deux fois, la justice a donné raison au ministère de la Culture qui, cela dit, n'a jamais revendiqué les quatre pleurants toujours exposés au musée de Cleveland aux États-Unis.
Florence Turm. Demain, le temps restera orageux à l'est et au nord, surtout l'après-midi. Il faudra compter avec la grêle entre l'Alsace et le Nord-Pas-de-Calais. Sur l'ouest et jusqu'au centre, ciel variable avec tout de même un risque d'averse. Les températures seront comprises entre 12 et 18 degrés d'ouest en est le matin. Il fera 17 à 25 l'après-midi. Ce journal a été préparé avec Jean-François Braun.